Garantie d'emprunt accordée à la SPL Sarem, Monsieur Toulouse.
Merci. Donc, il s'agit ici de garantir un emprunt qui est fait par la Sarem. Concernant la ZAC des couteaux de la Seille, c'est une consolidation parce qu'on constate que le rythme de l'opération ne va pas être le rythme qui était prévu au départ. Ça va s'allonger un peu. Donc, nous avons besoin donc, de consolider les avances de trésorerie faites sur un emprunt plus long.
Merci. Y a-t-il des...
Oui, il y a des inscrits. Alors, Madame Grollet, Monsieur Lebeau, Madame Collin-Osterlet, Madame Zimmermann. Madame Grollet, 2 minutes. Les trois, en tout, 3 minutes, hein, donc il faudra faire court. Hein.
Oui.
Alors, Madame Grollet. Pardon. Bah, écoutez, non, moi, je veux bien rallonger, mais c'était la demande de Madame Zimmermann, 3 minutes en tout. Hein. Donc, moi, je m'en tiens à votre président de groupe. Hein. Alors, Madame Grollet.
Pourquoi continuer à imprimer noir sur blanc des chiffres qui sont devenus complètement illusoires ? 171 000 m2 de construction, 15 000 m2 de bureaux et de commerces. Il est clair pour tous que les 1 600 logements pour 4 000 habitants supplémentaires ne sont pas prêts de sortir de terre dans les 12 ans d'existence de la ZAC. Le péché originel, de construire sur des terres cultivables, qui manque cruellement à nos agriculteurs, ils se chargent de nous le dire récemment. Pour un écoquartier, c'est un comble. En éventrant une colline, est assumée par l'ancienne municipalité. En revanche, vous avez persévéré dans l'erreur en lançant la ZAC en 2011, en plein retournement de situation économique. Les habitants que vous visez, les études démographiques le prouvent, ils déménagent ou ils s'installent lorsqu'ils arrivent hors de Metz et même hors de l'agglomération. Ce sont, au niveau local, des exilés fiscaux que vous fabriquez et ça n'est pas fini avec les décisions fiscales à venir de Metz Métropole. Et vous accédez même à la demande existante, après l'avoir tant critiquée, celle de faire des maisons individuelles qui, finalement, verront le jour sur la ZAC. Aujourd'hui, la ZAC est en panne. Dans le compte-rendu d'activité 2015, le solde d'opération était négatif. Le bilan prévisionnel chiffre les besoins de trésorerie pour 2016-2017 à 2 millions plus 2,5 millions. On nous demande maintenant de garantir un emprunt de 2 millions après avoir voté en septembre dernier une convention financière pour décaler le remboursement de l'apport initial de Metz, prévu dans l'acte d'apport, à novembre 2016 jusqu'à novembre 2022. Pour cet emprunt de 2 millions, le remboursement est déjà prévu dans 5 ans. Qu'en sera-t-il dans 5 ans ? Après beaucoup de bluffs sur l'état réel de la ZAC des Coteaux de la Seille, face à nos interrogations, on parle enfin de report de certaines recettes, de ralentissement du rythme de commercialisation, de la probable augmentation de la durée de réalisation, comme si on ne pouvait pas s'en douter. Bref, il n'y a à l'appui de cette demande de garantie financière que des mauvaises raisons, avancées avec la plus mauvaise grâce, une fois qu'on ne peut plus temporiser parce qu'il faut déjà rembourser les premières lignes de trésorerie. On lit dans la dernière phrase de la délibération, je cite, « Vu l'intérêt de l'opération et son bilan financier prévisible, nous ne croyons ni à l'un ni à l'autre et donc nous nous opposerons à ce que la ville garantisse cet emprunt. » Je vous remercie.
Merci Madame. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, la ZAC des Coteaux de la Seille est symptomatique de votre échec, malheureusement. C'est la baisse de la population. Parce que si aujourd'hui on peut voir un grand-mère et un maire qui est en défaut, c'est l'évolution de la population de sa commune. Et depuis que vous êtes là, la ville de Metz a perdu 5000 habitants. Et ça, non, c'est des chiffres, et les chiffres sont aidus. Alors, sachant que les communes de Metz Métropole n'ont pas connu la même évolution, et je sais bien que chaque fois que je prends la parole, ça vous déplaît. Non, mais je comprends aisément. C'est de pointer du doigt le problème et de montrer que si la ZAC des Coteaux de la Seille est complètement en panne, c'est que la ville de Metz manque d'attractivité. Si la ZAC de Sansonnet est en retard, a un retard cuisant, pourquoi ? Parce que la ville de Metz manque d'attractivité. Et ça fait quand même maintenant 7 ans que vous êtes au pouvoir. Donc, les bienfaits de votre gestion, 8 ans, c'est tout à fait vrai, 8 ans, 8 ans que vous êtes au pouvoir et les bienfaits de votre politique devraient se faire ressentir. On devrait avoir des gens qui se précipitent maintenant pour aller chercher un appartement, puisque aujourd'hui il y a tellement de projets immobiliers et que la ville est tellement attractive que les projets devraient sortir de terre d'une facilité déconcertante. Vous avez tellement bien géré cette ville, vous l'avez rendue tellement performante du point de vue de l'entreprise, du point de vue du commerce, de l'artisanat, que les gens sont tellement heureux qu'ils fuient la ville. Et donc les projets, les nouveaux projets immobiliers que vous portez ne sortent pas. Il n'y a qu'à voir la situation de la ZAC des Coteaux de la Seille, ou, prenons l'autre exemple, la ZAC du Sansonnet. C'est malheureusement, et ce n'est pas pour dire du mal de vous, monsieur le maire, j'aimerais tellement louer vos réussites. J'aimerais pouvoir dire que c'est une réussite. Eh bien là, je suis malheureusement contraint de dire que c'est un échec total. Et s'il y a bien un indicateur de réussite d'un maire, c'est l'évolution de la population. Et là-dessus, vous serez jugé par l'histoire comme un mauvais maire, et je le regrette. Merci beaucoup.
Oui, monsieur le maire, alors, vous nous demandez aujourd'hui de nous prononcer sur une nouvelle garantie d'emprunt accordée à la SAREM, après celle qui a été accordée en mai 2015 pour l'opération d'aménagement de ce quartier des Coteaux de la Seille. Alors, comme tout le monde le sait, mais on peut quand même le redire, la garantie d'emprunt, c'est un engagement par lequel une personne publique, en l'espèce la ville de Metz, va accorder sa caution à un organisme, la SAREM, dont elle va faciliter les opérations d'emprunt. Et c'est un contrat de cautionnement par lequel la ville s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à assurer pour lui l'exécution de son obligation. Donc c'est une délibération qui est quand même loin d'être anodine. Alors pourquoi une nouvelle garantie d'emprunt dans le cadre de ce projet immobilier ? Ben, tout simplement parce que le programme de construction sur lequel vous misiez beaucoup connaît quelques difficultés. Je vous lis. Report de certaines recettes, ralentissement du rythme de commercialisation, augmentation de la durée de réalisation d'opérations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre projet de délibération. Et c'est vrai qu'il suffit de se promener le long de la Seille, ce que je fais régulièrement, pour se rendre compte du nombre d'appartements encore vides et de l'absence d'aménagement et de services de proximité susceptibles de convaincre futurs locataires et propriétaires de venir s'y installer. Alors en la matière, on ne peut pas vous reprocher de changer d'avis. Vous êtes resté fidèle à votre axiome, c'est la multiplication des programmes immobiliers qui fera venir de nouveaux habitants. Alors monsieur le maire, j'ai déjà eu l'occasion de m'en inquiéter, mais je crains que vous soyez en train de créer une bulle immobilière à Metz. Vous continuez à multiplier les programmes immobiliers d'envergure, les Coteaux de la Seille, quartier de l'Amphithéâtre, manufacture des tabacs, nouvelles actes de devant les ponts, demain réhabilitation de Bon Secours, pour, effectivement, le grand plaisir, bien sûr, des promoteurs, évidemment des promoteurs et des entreprises du bâtiment, alors que dans le même temps, la vacance de logements augmente, elle a augmenté de 20% ces 8 dernières années. 11,8% des logements messins sont vides aujourd'hui, 7600 appartements vacants, et ce chiffre n'était que de 10% pardon, en 2009. Ce qui était prévu dans le plan local de l'habitat 2011-2017, c'était 571 logements par an sur 6 ans à Metz, donc environ 3400 au total. Cette évaluation correspond à la capacité d'absorption de la ville. Or, si on additionne tout ce qui est prévu jusqu'en 2017, il y en a au moins 2000 de plus, et cela alors même que l'on continue à perdre des habitants. Alors, monsieur le maire, cette situation, elle n'est pas uniquement imputable au départ des militaires, et vous le savez bien, la principale raison, et on y revient toujours, c'est que notre ville, aujourd'hui, souffre d'un manque d'attractivité. Et je vais vous le dire comme je le pense, quitte à froisser certains de mes collègues, mais il faut, à un moment donné, faire preuve, je crois, de lucidité. Notre ville, j'en ai peur, est tout doucement en train de sortir des écrans radars. Et la réforme territoriale et ses conséquences ne sont pas là pour arranger les choses. Metz a perdu son statut de capitale administrative au profit de Strasbourg, aura bien du mal à revendiquer un statut de capitale économique au sein de ce grand espace régional, face aux deux métropoles que seront Strasbourg et Nancy, et à un nord mosellan de plus en plus tenté par un rapprochement avec le sud du Luxembourg. La situation de notre ville est inquiétante. La dynamique démographique est un élément important que l'on ne peut balayer d'un revers de main, en attendant tranquillement des jours meilleurs et en espérant que l'offre immobilière attirera de nouveaux habitants. Et il ne suffit pas de déplacer les familles d'un quartier à un autre. Alors, Avez-vous réellement conscience de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? Je n'en suis pas certaine. Monsieur le maire, j'aimerais connaître vos ambitions pour notre ville. Quelles sont vos intentions pour attirer des classes créatives, des entreprises, de l'activité, des emplois et alors, au final, de nouveaux habitants? Je vous remercie.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le maire, pour ce point, je me suis permise de faire un petit peu de revue de presse. Et j'ai repris les articles depuis 2006, parce que ce projet, c'est votre prédécesseur qui l'a mis en place et qui avait une grande ambition, effectivement, sur l'éco-quartier. Bon. Lorsque on regarde ce qu'est un éco-quartier, c'est priorité au transport collectif, des technologies en pointe, une densification, des espaces verts partagés, un cadre exceptionnel. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au niveau des transports collectifs, votre adjoint à l'époque, Monsieur Lioget, votre premier adjoint, disait que le transport collectif donc pourrait aller de l'amphithéâtre au technopôle, par exemple, et en plus, en attendant, les bus traditionnels auront une place de choix dans cet éco-quartier. D'autre part, c'est un ensemble global entre le quartier de l'amphithéâtre et les coteaux de la Seille. Donc aujourd'hui, monsieur le maire, moi je pose une question. Au départ, un éco-quartier se fait la plupart du temps sur une friche. Par exemple, vous pouvez en avoir un à la manufacture de tabac. Un éco-quartier se fait en concertation avec les habitants et se construit avec les habitants autour de l'éco-quartier, et ensuite, progressivement, il y a une concertation permanente qui se fait pour construire cet éco-quartier. L'éco-quartier, c'est à la fois des transports en commun, c'est à la fois des immeubles, certes, avec des technologies de pointe, et là, oui, il y en a des technologies de pointe. Oui, effectivement, les bâtiments sont construits avec les technologies les plus modernes, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on demande dans un éco-quartier. D'abord, il y a un point, c'est sans aucun doute, et là, c'est une question que je vous pose, et à l'époque, elle avait déjà été posée dans l'ancien mandat, c'est sur l'accession à la propriété. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les prix, ce ne sont effectivement pas, comme le dit très justement votre premier adjoint, ce ne sont pas les primo-accédants qui peuvent arriver dans ce quartier, premièrement. Deuxièmement, certes, vous avez fait de la mixité sociale. Sans aucun doute, vous avez travaillé avec vos bailleurs sociaux. Mais, monsieur le maire, moi, j'ai quand même un souci aujourd'hui. La définition qui est l'éco-quartier dans tous les documents d'urbanisme que l'on peut trouver, et là, vous les regardez, ils sont tout à fait disponibles sur tous les sites Internet possibles et imaginables, mais les coteaux de la Seille, ils y sont vraiment encore dans le dispositif éco-quartier? Je pose la question. Parce que vous allez me sortir les normes de bâtiment, vous allez me sortir les transports collectifs qui vont peut-être venir, qui vont sans doute pas venir, enfin, et qui ne sont pas là pour le moment. Et quel est le lien qu'aujourd'hui vous comptez avoir avec ce qui était, je crois, dans la perspective de votre prédécesseur, de faire non seulement cet éco-quartier dans les coteaux de la Seille, c'est sûr, mais également sur l'ensemble avec l'amphithéâtre. Donc, l'éco-quartier coteaux de la Seille, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Et on a une nouvelle garantie d'emprunt. Ok, c'est sympathique. Sauf que on va continuer comme ça pendant combien de temps? Quelle est la fin de l'opération? Et comment on va continuer à garder les normes qui doivent être vraiment, je dirais, observer si on veut garder le label écoquartier avec tout ce que ça entoure comme aide, comme accompagnement. Voilà la question que je vous pose. Merci, monsieur le maire.
Je vais demander à monsieur Lieugé de répondre, je dirai un petit mot.
Écoutez, monsieur le maire, je suis ravi de voir cet intérêt se manifester. Il faut dire que je parle sous le contrôle de Jacques Tron et d'autres personnes qui sont assidues à la commission d'urbanisme. On a beaucoup de mal à voir les membres de l'opposition à la commission d'urbanisme, à l'exception de Madame Grollet, qui est tout à fait présente et qui vient à chaque fois discuter avec nous sur la stratégie de... Et pourtant, cette commission d'urbanisme, on l'a mis le soir, monsieur Lebeau. On l'a mis le soir. Elle est quelquefois... Elle a été pendant très longtemps à 17h et vous n'êtes pas venu. Alors bon, on peut la mettre à 19h ou à 20h si vous voulez, si ça peut vous faire venir. Mais il y a aussi des services qui sont là, il y a aussi des gens qui travaillent. Et on a... Vous nous aviez demandé de la mettre le soir. On l'a mis le soir sous les recommandations de monsieur le maire. Oui. Et on constate qu'aucun membre de l'opposition, à l'exception de madame Grollet, n'est jamais présente à cette commission d'urbanisme depuis à peu près 2 ans. Bon, donc je me soumets de bonne grâce aux questions que vous posez, parce qu'elles sont très nombreuses, évidemment, et c'est toujours les mêmes questions sur la stratégie de la ville. Moi, je suis très étonné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on arrête tout? Qu'on arrête de construire? Qu'on fige la ville telle qu'elle est depuis 30 ou 40 ans? Mais c'est, je veux dire, vos questions relèvent, excusez-moi, d'une méconnaissance profonde du dynamisme, du fait que, par exemple, Madame Grollet disait cette ZAC a commencé en 2011. Pas du tout. Elle a commencé en 2008 et en 2010-11, on a livré 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés par logis et 5000 mètres carrés par habité. Bon, ces logements sont actuellement habités, c'est une manière de le dire, je ne voulais pas le répéter, mais je ne trouve pas d'autres mots. Et effectivement, il y a eu effectivement la crise, excusez-moi. Donc il y a eu un ralentissement dans les ventes, ralentissement qui fait qu'à un moment donné, on a une certaine inertie et qu'on est en train de retrouver... On est en train de retrouver le rythme de commercialisation. Et je voudrais encore tordre le cou pour la xième fois à cette question de bulle immobilière ou de bulle spéculative. Elle ne peut pas exister. Ça aussi, c'est une méconnaissance totale du mécanisme français, puisqu'il faut 60% de pré-commercialisation pour qu'un programme commence. Ce qui veut dire que les banques, à la différence de ce qui s'est passé en Espagne, sont les garantes qu'effectivement, il n'y aura jamais en France de bulle spéculative. Donc, ce qui veut dire, Madame Colin-Osterlé, qu'on est effectivement dans quelque chose qu'il faut moduler. Ben oui, parce que c'est elle qui en parle à chaque fois ou qui dit au maire qu'il risque d'y avoir une bulle spéculative. C'est absolument une ineptie. Il n'y a pas du tout de risque de ce point de vue-là. Donc, si on prend les deux paramètres, la nécessité d'offrir aux Messins ou à l'extérieur de Metz, les gens qui veulent venir, et aujourd'hui il y en a beaucoup, je peux vous assurer, mais c'est vrai que l'urbanisme, il y a une certaine inertie. Pour arriver entre le moment où on va vendre un foncier, où on va autoriser une autorisation d'urbanisme architectural, etc., etc., il faut 3-4 ans. Donc vous voyez un petit peu la temporalité. Quand en plus on se paye un petit peu une crise, ben voilà, ça ralentit les choses. Mais je vous rassure, sur cette ZAC des Coteaux de la Seille, il y a déjà 10 000 mètres carrés qui ont été livrés. Et à la fin de cette année, même dès les semaines qui viennent, deux sociétés, la société ICAD et la société Blue, vont livrer 5 000 mètres carrés de supplémentaires. Qui vont permettre, effectivement... Je ne sais pas quel problème, monsieur Lebeau. Mais non, je... il manifeste son... Bon, donc il y a effectivement deux sociétés qui ont eu le courage d'investir à un moment donné et qui vont permettre, sur un prix moyen qui est certes un petit peu élevé, madame Zimmermann, puisque le primo-accédant a un petit peu de mal... Mais je vais vous dire, il y a un programme à Borny qui s'est vendu en un mois à 1600 euros du mètre carré. Pour arriver à ce prix, je dirais, plancher, qui permet aux primo-accédants d'acheter une maison, il faut de la TVA 5,5. Il faut des dispositifs qui permettent, effectivement, comme à Borny, comme les maisons qu'on a fait et qu'on va aussi vous proposer très bientôt, puisque la société Nexity et la société Nakara ont repris un programme immobilier qui était un petit peu en stand-by sur Borny. On va être en capacité de vous proposer de nouveau un programme pour les primo-accédants significatif, puisqu'il s'agit de 150 à 160 logements qui seront vraiment dédiés aux primo-accédants. Mais aujourd'hui, si on prend le prix de la construction et la chaune qu'on est obligé de vendre aux alentours de 200 euros pour justement respecter l'économie globale d'une ZAC comme celle des Coteaux de la Seille, on peut guère arriver en dessous d'un prix moyen de 2007-2008 euros du mètre carré, ce qui, évidemment, est un peu cher pour un primo-accédant, on le reconnaît. Mais il y a effectivement un effort qui est fait sur ce sujet, à la fois sur Borny et à la fois sur les Coteaux de la Seille. Donc, tordre le cou sur le fait qu'effectivement, on a connu un certain ralentissement sur ces coteaux de la Seille dû à la crise, que par exemple la ZAC de l'Amphithéâtre n'a pas connue, parce que c'est un autre positionnement, que peut-être les Sansonnais ont connu un peu plus aussi, mais les Sansonnais, MHT va commencer très bientôt son programme, on a Bouygues Immobilier qui commence aussi 5000 m2, et on a un bailleur social lyonnais qui a commencé
Habitat Humanisme,
Habitat et Humanisme, 2000 m2. Donc, on commence à avoir un rythme de commercialisation qui repart sur la ZAC du Sansonnet. Donc, de mon point de vue, oui, il y a eu la crise. Non, il n'y a pas de risque de bulle spéculative. Et on recommence à de nouveau pouvoir vendre du foncier et donc travailler avec l'ensemble des promoteurs qui le souhaitent. Et je vous mets au défi de trouver un seul promoteur qui soit favorisé par rapport à un autre, puisque l'ensemble des promoteurs qui ont voulu, à un moment donné, sur la ZAC de l'Amphithéâtre, sur les Coteaux de la Seille ou sur les Sansonnets, avoir une parcelle, l'ont eu. Et on est effectivement aussi... Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut assurer une certaine concurrence aussi. Si on donne tout au même promoteur, ou au gros promoteur, s'il est Fage, Vinci et tout ça, il est clair qu'il risque de bloquer du foncier. Alors que là, on a joué sur un spectre très large de promoteurs qui permettent effectivement, y compris d'ailleurs de bailleurs sociaux, à démarrer les choses. Et je vous accorde, c'est vrai, que ce n'est pas un exercice très facile d'arriver à vendre du foncier à un moment où la crise et le départ des militaires... Malgré tout, Madame Collin-Serlet, malgré tout, 4000 militaires qui s'en vont, je suis désolé, c'est pas... Mais dans l'agglomération, peut-être, mais vous admettrez qu'il y en a peut-être, quelques centaines qui sont à Metz. Vous admettrez qu'il y en a peut-être quelques centaines qui sont à Metz. Et ensuite, la vacance, elle est exactement la même qu'à Nancy, elle est exactement la même. Bien sûr que si, on n'a pas les mêmes chiffres, et c'est toujours la même chose. Je peux vous assurer que nous n'avons absolument pas un taux de vacance qui est préoccupant, parce qu'on aurait les agents immobiliers qui seraient les premiers à être dans la rue aujourd'hui si on avait... comme vous le dites, un taux de vacances très important.
Merci.
Ah oui, sinon, quand même, deux mots sur l'écoquartier, madame la députée. Il est clair qu'aujourd'hui, on a sur cette ZAC consenti des investissements qui sont très importants. Alors, je vous accorde une chose, et vous avez redit ma déclaration sur les transports urbains. Là où il est vrai qu'aujourd'hui, pour des questions financières, de difficultés liées à Metz Métropole qui assume cette charge, on a prévu le passage d'un futur métis que j'appelais de mes voeux en 2008 ou 2009, qui partirait par exemple, puisqu'il en a la possibilité, du Technopole pour aller à travers cette ZAC vers l'amphithéâtre. Malheureusement, l'emprise foncière sera toujours préservée, on pourra toujours faire passer un transport en commun, en site propre, ou un transport en commun de manière générale sur ce site, ce qui en fera, je pense, qui donnera un label écoquartier. Moi, je serais bien intéressé que vous me donniez quel est le cahier des charges d'un écoquartier, parce que depuis 7 ans, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ce que je veux vous dire, il n'existe pas, mais à mon sens, il n'existe pas, pas de manière officielle, ce n'est pas vrai. Par contre, on peut lister, laissez-moi terminer, lister un certain nombre d'éléments que nous avons mis, et notamment des investissements lourds que nous avons consentis, comme le chauffage urbain, que nous avons amené jusque-là, sauf que cet investissement qui est très important à la charge de la collectivité et en partie à la charge évidemment de l'UEM fait qu'avec les normes de RT 2012, aujourd'hui, en plein hiver, sur un hiver tel qu'on l'a, les gens dans un chauffage payent plus d'abonnement au chauffage urbain qu'ils ne payent de chauffage. Et ça, je peux vous dire que les locataires ou les propriétaires, ils viennent nous voir en nous disant que c'est inadmissible. C'est-à-dire que, vous voyez, on a voulu faire une ZAC effectivement vertueuse du point de vue notamment du chauffage, qui est quand même un des éléments essentiels hein, de la vie quotidienne des gens. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez, vous voyez, le mieux étant l'ennemi du bien, d'une certaine manière, on a des difficultés aujourd'hui parce que les normes environnementales en termes de construction sur l'ART 2012 sont déjà extrêmement contraignantes, produisent des appartements qui sont très faciles à chauffer. Et du coup, vous voyez, on a un exemple où, malheureusement, le chauffage urbain et l'investissement, encore une fois, que la ville, la SAREM, hein, avec des emprunts, et l'UEM elle-même avait consenti sur cet espace, se trouve un petit peu obsolète et en tout cas largement dépassé. Donc, vous voyez, c'est effectivement très compliqué. Je pense qu'on peut dire que cette ZAC est écologique au sens où, je veux dire, elle a le chauffage urbain, les gens ne payent pas quasiment rien sur le chauffage et que, malheureusement, elle le sera, je pense, vraiment, lorsqu'on aura pu débloquer des transports urbains qui soient à la hauteur de ce qu'est cette ZAC, mais en même temps, et c'est le même problème des commerces, vous parliez des commerces, tant que nous n'avons pas une taille significative, tant que nous n'avons pas vendu suffisamment, mais ça va venir, soyez patients, progressivement, on va arriver à développer un certain nombre, et c'est le cas, puisque le programme, je ne sais plus qui parlait de maisons individuelles, effectivement, on a revu un petit peu notre état d'esprit sur le sujet, on va faire des programmes de maisons individuelles. Ces maisons individuelles vont commencer effectivement peut-être à apporter une offre à des gens qui veulent habiter dans des maisons individuelles et pas dans des collectifs. Et on avait eu cette discussion sur ce sujet.
Merci. Je voudrais terminer. Il m'est arrivé sur le bureau à l'instant une information qui correspond à un banquier, c'est BNP Paribas, c'est une grande société, qui conseille ses clients. C'est BNP Paribas Real Estate, vous savez, c'est du Real Estate, c'est de l'immobilier. Hein. Et le titre, c'est « Investir à Metz, une ville qui a réussi sa mutation tertiaire ». Alors, je vais vous en lire parce que ça nous fera tous du bien. Et je suis tellement content quand mon opposition est contente, tellement ils vont être contents de ce que je vais vous lire. Alors, Metz, une ville qui a réussi sa mutation tertiaire. C'est pas moi qui parle, c'est Real Estate BNP Paribas. Hein. Après une année en fort retrait des transactions immobilières à Metz, le marché immobilier risque de connaître un nouvel essor de multiples raisons. Le lancement de plusieurs programmes immobiliers neufs, de bureaux autour de la gare. La mise en chantier du centre commercial Les Muses, est-il dit, qui développera 37 000 m² et son potentiel d'ouverture à l'international. Investir en Lorraine en 2016 peut s'avérer porteur à bien des égards. Alors, un potentiel d'ouverture exceptionnel. C'est les sous-titres de Real Estate BNP Paribas. Il ne s'agit pas ni Richard Liogé ni moi-même. Hein, c'est pour les...
Alors, c'est nos copains quand même.
Voilà, c'est encore nos amis sûrement. Disposant d'une situation géographique exceptionnelle. Metz, c'est l'unique ville de France qui soit située à près de 40 minutes de plusieurs frontières, Allemagne, Belgique, Luxembourg, avec près de 24 millions d'Européens dans un rayon de 200 km. Ce qui fait de Metz la ville cosmopolite par excellence. De ce fait, les infrastructures aéroportuaires et autoroutières se sont considérablement développés au cours de ces dernières années, faisant également partie du réseau French Tech. Je lis toujours, si vous voulez bien m'écouter. Regroupant tous les acteurs qui s'engagent en faveur de la croissance des start-up en France, Metz est une ville d'innovation, une labellisation qui souligne aussi le potentiel de croissance de la ville de Metz et son écosystème de start-up dynamique. Les infrastructures se développent en ce sens et les projets d'immobilier résidentiel et tertiaire se multiplient pour accompagner cette dynamique. Nous sommes intimement persuadés que la digitalisation de l'économie est une opportunité qui permettra aux marchés régionaux de se développer. À ce titre, nous constatons que les 5 villes que nous présentons lors de notre conférence et que certaines pourraient qualifier de secondaires sont toutes labellisées French Tech, voire sur le podium des villes françaises les plus dynamiques en termes de création de start-up, comme Montpellier, Grenoble, précise Jean-Marc Delatrade, directeur général adjoint chez BNP Paribas Real Estate Transactions. Jean-Paul Viguier signera le plus grand complexe immobilier mixte
bureaux, centre commercial, logement, jamais construit dans l'histoire moderne de la ville de Metz. Au pied du musée Pompidou, Philippe Stark signera quant à lui un hôtel 4 étoiles. Metz, je conclus, Metz développe toujours plus de politiques urbaines pour attirer et retenir des start-up et des entreprises innovantes. Un modèle de ville qui a réussi sa mutation et anticipe le développement de son futur tissu économique. Investisseurs, prenez-en note et misez sur l'agglomération de Metz en 2016. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez entendu. Je mets au vote la proposition de monsieur.
Explication de vote. Ah ben voilà.
Alors on va prendre les explications de vote. Qui veut expliquer son vote? Mais vous l'aurez quand même entendu, hein, excusez-moi. Alors je note, tout le monde veut expliquer son vote, c'est parfait. On va commencer par René Darbois. Allez, allons-y.
Monsieur le maire, au risque de contrarier nos amis banquiers, nous considérons toujours, nous avons un doute.
J'ai pas d'amis, moi.
Sur l'aménagement de ce
c'est
quartier,
toi, mon ami.
Pour lequel nous avions plus d'ambition tournée côté écologie. Je l'ai dit déjà ailleurs et plusieurs fois, transport, etc. Vertueux, énergie vertueuse, ça ne suffit pas. En conséquence, nous nous abstiendrons.
Très bien. Alors, explication de vote. Madame Grollet.
Ce publi-reportage que vous nous avez lu sur la ville de Metz est très beau, mais BNP Real Estate, et d'autres le diront peut-être de façon plus professionnelle que moi, c'est un investisseur immobilier finalement, c'est quelqu'un qui est jugé parti. C'est un commercialisateur, voilà, quels que soient les termes. C'est normal qu'ils disent le meilleur de ce qu'il espère vendre à ses clients. Donc nous avons expliqué de toute façon largement les raisons de notre opposition à cette ZAC. On aurait souhaité que, pas celle-là à cause de la situation, mais que d'autres projets immobiliers marchent, bien sûr. Mais c'est irréaliste. Je vous remercie.
Merci, madame. Il y avait encore... qui veut expliquer son vote? Un par groupe, c'est vous, madame. Allez-y. Alors allons-y, on va commencer par Madame la Présidente.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Maire. C'est une garantie d'emprunt, bien entendu. Nous nous abstiendrons sur le point. Par contre, je voudrais simplement dire à Monsieur votre premier adjoint, vous savez, vous n'allez pas chercher loin, hein, vous recherchez sur Wikipédia, vous avez écoquartier, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez même, parce que vous n'avez pas abordé un point, c'est sur les déchets. Sur le piétonnier, sur tout ça. Donc, je crois, si vous voulez, que quand je vous pose la question de dire qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du terme écoquartier, il n'y a pas que le chauffage. C'est pas que ça. Un écoquartier, c'est un ensemble. Donc, aujourd'hui, question est. Je n'ai pas la réponse. Et je considère que la crise, certes, a peut-être ralenti, mais je voudrais vraiment être sûr qu'à la fin du mandat, avec tous les garanties, avec tous les emprunts supplémentaires qu'on va encore voter, on aboutisse à un vrai écoquartier. Et je vous invite à regarder sur le site du ministère des Logements, du Logement, sur Wikipédia, et vous avez tout ce qu'il vous faut comme cahier des charges et tout ce que vous voulez. Merci.
Merci. Donc, abstention. Vous abstenez aussi, madame ?
Monsieur le maire, pour finir sur la labellisation, il y a 39 quartiers aujourd'hui en France labellisés, on n'est pas dedans. Hein.
Par le gouvernement.
Par le gouvernement, hein. C'est pas... Bon. Moi, je voudrais simplement vous dire, monsieur Leger...
Votre vote, madame.
Monsieur, je vais l'expliquer, monsieur le maire. Vous entendez ce que vous voulez bien entendre. Quand il y a un PLH, ça ne sort pas du chapeau, les chiffres. Quand on vous dit que la capacité d'absorption, c'est 3400 sur 5 ans, d'accord, logement, et qu'on en fait 2000 de plus... et qu'on perd des habitants, forcément, il y a une vacance qui se renforce. Et forcément, ce n'est pas des nouveaux qui arrivent. On déplace d'un quartier à un autre et on ne se pose pas beaucoup de questions sur la réhabilitation de l'ancien, notamment, dont il faudrait peut-être s'occuper. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'on arrête de construire. Je dis juste qu'il faut être dans les capacités, il faut rester dans les capacités d'absorption d'une ville comme la nôtre. C'est la seule chose que je vous dis. Alors, nous nous abstiendrons, comme l'a dit Mme Zimmermann, sur ce sujet.
Là, vous avez parlé deux fois. OK, allez-y. Répondez, bien. Parce que c'est pas
bah oui, parce que de vote, c'est pas des explications de vote, donc je vais aussi faire une explication qui n'en est pas une. D'abord, c'est pas sur Wikipédia qu'on fait. Excusez-moi, Madame Zimmermann, parce que si Wikipédia, qui est une encyclopédie ouverte et qui permet à n'importe qui de mettre ce qu'il veut, est une référence, alors je suis désolé. Non, ça c'est pas vrai. Bon, écoutez.
Laissez l'explication de vote à Monsieur Lioger, s'il vous plaît.
C'est incroyable, ça. Mais c'est vous qui dites n'importe quoi.
Monsieur Lioger,
vous parlez de Wikipédia comme étant la Bible. Sinon, c'est...
Monsieur Liogier est en train d'expliquer son vote. Nous avons écouté religieusement les explications de vote.
On vous a écouté religieusement.
Alors maintenant, laissez Monsieur Liogier expliquer son vote.
Et
Madame Zimmermann, Monsieur Liogier peut expliquer son vote. Il y a eu beaucoup d'explications de vote.
Bah oui, tout le monde va expliquer
Monsieur
son
Liogier.
Vote. Il n'y a pas de raison.
Au nom du groupe majoritaire, M. Liogier voudrait expliquer notre vote.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est que actuellement, la délibération porte sur un emprunt. Donc, tout ce que vous avez dit autour est largement, je dirais, hors sujet. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein. Et un emprunt est fait pour être remboursé. Et je peux vous assurer que, vu le rythme de commercialisation de la ZAC, des couteaux de la Selle, comme de celle des Sansonnet, il n'y a aucun problème pour rembourser. Il y a effectivement des avances qui sont consenties et des garanties. Vous l'avez bien dit, Mme Collet-Osterlet. Mais là, on est vraiment sur un rythme de croisière. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et surtout, je suis désolé que vous mélangiez un petit peu tous les sujets. Donc, monsieur le maire, je voterai pour.
Merci. Voilà l'explication de vote claire. Monsieur Cambianica, pour le groupe des centristes,
oui,
veut bien donner son vote, s'il vous plaît, monsieur Cambianica.
Pour éviter un supplice insupportable, un suspense insupportable, nous voterons, bien entendu, pour ces délibérations. Moi, je voulais simplement faire part d'un souvenir que j'ai lorsqu'il y a eu la terminaison d'un des chantiers. Le promoteur qui nous a reçus nous a expliqué que dans les immeubles, enfin dans les appartements qu'il allait livrer, les charges annuelles de chauffage et de rafraîchissement ne dépasseraient pas 200 euros par an.
Absolument.
Alors, il y a peut-être effectivement dans certains cas des surfaces, des coûts au mètre carré qui sont peut-être un peu plus importants que ce qui était prévu à l'origine. Mais les solutions technologiques qui ont été choisies pour ces immeubles font que ce promoteur s'engage pour des charges annuelles inférieures à 200 euros. Si vous trouvez beaucoup de logements qui présentent ce type de caractéristiques, faites-moi signe. Et puis enfin, je crois que le programme immobilier de Metz est un programme dynamique et qu'il est échelonné dans le temps et que c'est la meilleure... la meilleure garantie d'un développement harmonieux de la ville. Je vous remercie.
Merci d'avoir exprimé votre vote. Alors, qui est contre, finalement? Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abstentions. Voilà. Et puis, les autres sont pour. Mais le point est quand même adopté. Merci aux rapporteurs et aux intervenants.